Voilà. Bonjour, Madame Cognou. Vous allez nous présenter la structure dans laquelle vous intervenez à Feltin.
Donc, nous sommes une association loi 1901, appelée l'OSEC, local d'accueil d'urgence du sud-est creusois. Nous sommes entre 12 et 15 personnes qui intervenons chaque semaine par binôme de deux pour pouvoir accueillir des personnes qui nous sont dirigées par le 115 de Guéret. Donc les séjours ont lieu entre normalement 3 jours, mais aujourd'hui, depuis le Covid, on accueille plutôt des personnes sur une durée de 6 à 7 jours et qui repartent ensuite sur Guéret pour être redirigées sur un autre local. Et les gens tournent sur les logements différents de la Creuse, où il y a des logements sur Guéret, La Souterraine, Boussac et Feltin. Et puis on a aussi un logement dit ALT, donc d'accueil, c'est un accueil en logement temporaire. Les personnes viennent en général avec un projet de réinsertion, soit par le travail, soit par le logement, ou parfois pour se remettre d'un problème de santé. Et là, on signe un contrat avec eux de 6 mois. Et durant ces 6 mois-là, on les accueille et on les accompagne en fait toute la période pour pouvoir se réinsérer dans les meilleures conditions avec l'aide de l'UTAS d'Aubusson, les assistantes sociales et tous les organismes nécessaires pour pouvoir mener à bien la réinsertion de la personne. Donc nous sommes aussi une association de bénévoles. Donc chaque personne donne de son temps pour pouvoir être présent au moins une permanence par 6 semaines. Toutes les 6 semaines, il y a une permanence. Et on se relaye chaque semaine pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont besoin. Et nous nous retrouvons en réunion au bout de 6 semaines où on fait un point sur les accueillis, les problèmes que chacun a eu ou s'il y a des petites choses à revoir. Donc toutes les 6 semaines, on se réunit tous pour pouvoir rediscuter de nos missions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, l'association est un petit peu en reconstruction, entre guillemets. Notre président étant décédé au mois de janvier, on a énormément de difficultés à recruter de nouvelles personnes parce que la mission n'est pas simple et elle l'est encore moins aujourd'hui au vu des profils qu'on accueille. Nous ne sommes absolument pas formés, nous sommes tous bénévoles donc, et c'est très difficile de recruter des gens pour prendre la relève. Donc là, par chance, on a recruté Thierry qui a un super témoignage à faire parce que il est passé par le local d'urgence. Nous l'avons accueilli l'année dernière, si je ne me trompe pas, pour une réinsertion dans un logement classique, ce qui a été le cas donc au bout de 3 mois, à peine, trois mois. Et Thierry a souhaité rejoindre les rangs de l'OSEC suite à cet accueil et cet accompagnement. Il a souhaité s'investir en tant que bénévole dans l'association et il est très très précieux quant à son regard sur les personnes accueillies, les conditions. Et Thierry, il a un regard très très éclairé sur ce qui peut être mis en place ou même être rectifié. Donc on a effectivement une association avec des gens très très différents et dans leur parcours et dans leur sensibilité et dans leur regard. D'où l'importance de se retrouver toutes les 6 semaines, parce qu'il est pour nous extrêmement important que chacun puisse donner son avis sur les situations et puisse aussi s'exprimer quand il y a une difficulté. Il est hors de question que quelqu'un se retrouve isolé dans une difficulté par rapport à un accueil. Donc on a aussi un fonctionnement par mail où on a une boîte où chacun dépose ses témoignages, on peut répondre et donc on est en communication permanente tous les 15, toute l'association,
ah oui, en effet, oui.
Qu'on soit de permanence ou non, toute tous les binômes sont au courant de ce que peut vivre le binôme en permanence. D'accord. Il est hors de question que les deux personnes se sentent complètement isolées dans la prise en charge de quelqu'un. D'une part, parce que les profils ont tellement changé que la difficulté souvent se trouve au niveau comportemental et psychologique. Donc, des fois, c'est assez déroutant. Et puis, parce qu'on s'attache vraiment à faire corps dans notre association, parce que notre mission n'est pas facile. Et comme on intervient par deux chaque semaine, il y a quand même 6 semaines où on ne se voit pas de visu. Donc, on a trouvé ce système de communication via le mail qui permet quand même un ensemble et puis surtout un soutien des équipes en permanence.
Oui. Alors, parlez-nous de ce public que vous recevez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça recouvre, la notion de précarité, aujourd'hui, dans votre expérience ?
Alors, c'est...
Ensuite, Thierry nous expliquera de son point de vue, oui, puisque vous avez un regard très engagé.
Alors, on a des profils très différents. Aujourd'hui, on peut dire qu'on accueille en moyenne des personnes d'une 40aine d'années. On observe des accidents de la vie, souvent des séparations, des pertes d'emploi, pertes de logement suite à des difficultés financières. Et donc, on a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue et qui sont obligés de faire face. Alors, des problèmes aussi de RSA, des gens qui ont perdu leur RSA, et le temps que les choses se remettent en... On a le cas d'un jeune qu'on accueille en ALT depuis le mois de janvier et qui n'a toujours pas retrouvé de moyens financiers. Donc, ça fait 3 mois que ça dure. Donc, il y a quand même des gens qui sont fragiles de par leur situation et qui le deviennent d'autant plus quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de téléphone, on est coupé de toute la vie normale. Donc, on essaye d'avoir une attention particulière et régulière auprès de ces gens. Souvent, notre mission, c'est de relancer un petit peu les gens pour pas qu'ils perdent trop le moral, qu'ils perdent trop le fil du pourquoi ils sont arrivés. Ça, c'est pas facile. Et puis, on a aussi de la dépendance à des produits en tout genre. Donc, c'est là la grande difficulté, c'est quand on accueille des gens qui sont sous l'emprise de produits, on peut avoir des réactions parfois qui sont inappropriées et en tout cas déroutantes pour des gens comme nous qui sommes bénévoles et absolument pas formés. Donc, on y va avec notre sensibilité, d'où l'importance de ce groupe et de rester vraiment très en lien pour qu'on puisse aller chercher chez l'autre, même si on n'est pas de permanence, un réconfort, au moins un espace de discussion. Parce que les gens qui arrivent ici, souvent sont très fatigués. On a des exigences, des fois, qui nous semblent des fois pas très appropriées, mais des exigences dans la manière de les accueillir, dans la manière de les loger. Et il faut répondre à toutes ces personnes dans leurs difficultés, dans leur manière d'être un petit peu secouées par la vie et leur permettre d'arriver chez nous et de pouvoir au moins se reposer pour que leurs idées soient un petit peu plus claires et plus sereines. Mais ce n'est pas toujours très facile. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus.
Vous avez vu une évolution dans le public que vous recevez ?
Oui.
Parce que votre maman déjà travaillait...
Alors voilà, ma mère a fait partie de l'équipe qui a créé cette association-là, donc il y a 10 ans. Effectivement, au départ, c'était plutôt ce qu'on appelait, entre guillemets, des routards. C'est des personnes déjà qui étaient en général beaucoup plus âgées. Et, elles avaient des personnes dans la soixantaine et qui naviguaient de local en local. Mais il n'y avait pas une détresse aussi forte. Alors là, c'est peut-être aussi dû à l'âge, parce qu'on a en moyenne des gens de 40 ans, mais on a beaucoup de jeunes de 25 à 30 ans qui arrivent chez nous. Donc oui, on a vu une différence dans l'âge et dans les situations et dans le désordre mental. On ne sait jamais trop s'il faut faire appel à un service spécifique. C'est arrivé qu'on reçoive une jeune femme qui était vraiment très très perturbée psychologiquement et on a demandé à ce qu'elle soit rapprochée de Guéret pour pouvoir avoir des services adéquats par rapport à sa situation. Parce qu'ici, on a eu beaucoup de mal à la maintenir dans un climat de sérénité, et ça a été compliqué parce qu'il faut aussi que nous, on arrive à gérer aussi avec l'environnement, avec le voisinage, et que ce ne soit pas quelque chose qui perturbe trop, dans le sens où il faut qu'on continue à accueillir, il faut qu'on continue à vivre au milieu des autres, et des fois, ce n'est pas très facile d'exclure quelqu'un parce que sa présence perturbe trop. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué, mais comme on travaille de manière très très étroite avec le 115, on a quand même affaire à des gens professionnels d'une part, et qui sont quand même très à l'écoute de nos problématiques. On les appelle très régulièrement, et dès qu'on a une question, on se tourne vers eux pour ne pas se mettre nous en difficulté et pour ne pas mettre la personne qu'on accueille plus en difficulté qu'elle n'est.
Les troubles psychologiques ont l'air importants, en dehors de toute la détresse matérielle et de l'isolement. Les problèmes psychologiques semblent prépondérants.
C'est ce que j'observe, j'ai l'impression que les troubles sont de plus en plus importants. Il y a énormément de stress, mais en même temps, le monde dans lequel on vit, même quelqu'un qui n'a pas de fragilité mentale, c'est déjà compliqué pour quelqu'un qui a un équilibre de vie de continuer à grandir et se construire dans le monde dans lequel on est. C'est quand même très anxiogène. Depuis le Covid, je pense que ça a accentué des choses chez les gens, de l'ordre de la méfiance, de l'ordre du trouble, de la peur, de l'isolement, parce que je pense que ça a isolé, je suis sûre que ça a isolé énormément les gens, et d'autant plus ceux qui l'étaient déjà un petit peu plus. Donc il y a une évolution sur le profil des gens, sur l'âge, et les moyens de réagir en face sont parfois difficiles, déroutants, et c'est vrai que des fois, on est obligé de faire appel à des services extérieurs. On peut faire appel à des pompiers. C'est arrivé il y a quelques mois, un monsieur, là, pour le coup, qui était âgé, qui venait juste de divorcer, qui avait eu une vie normale tout au long de sa vie, et qui, là, se retrouvait dans sa voiture, et qui, un jour, appelle en disant qu'il voulait mourir. Donc nous, il a fallu qu'on intervienne, il a fallu qu'on fasse intervenir des gens, et sans faire paniquer la personne, et en essayant de répondre le plus juste à sa demande et à son état. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas facile.
En dehors du 115, vous avez des partenariats avec la psychiatrie, par exemple ?
Non, du tout.
Pas du tout.
Du tout. Ici, on n'a pas du tout. On a les infirmières qui sont très présentes et qui, elles, ont des contacts, mais directement...
Donc, les infirmières...
Les infirmières de secteur, si on a un problème, on peut les appeler, effectivement.
Mais pas d'infirmières psychiatres.
Non.
D'accord.
Et puis, il est arrivé, si on voit que c'est arrivé d'avoir des personnes très désorientées ou avec des comportements qu'on ne comprenait pas trop... On peut aussi s'appuyer sur la gendarmerie en disant on vient de recevoir quelqu'un, oui. on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc ils vont jeter un œil un petit peu plus. Si la personne est en ville et se balade, ils vont regarder un peu plus comment la personne va se comporter. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on est isolé de toute façon, on est à département où on est loin les uns des autres, donc. Donc c'est pas toujours très facile de s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur. Oui.
Globalement, vous êtes bien toléré par la... Vous dites bien que vous êtes obligé de maintenir un cadre de façon à qu'il n'y ait pas tellement de désordre. Au niveau de l'agglomération de Felletin.
Oui, on n'a pas de problème de relation. Il me semble que les gens sont assez libres de dire si ça va pas.
Voilà.
Et nous, on laisse aussi l'occasion aux gens de s'exprimer aussi sur les choses, si ça n'allait pas, qu'on puisse nous le dire pour pouvoir rectifier le tir. Et nous, on tient un discours par rapport aux gens qu'on accueille aussi. On leur rappelle toujours qui sont dans un contexte où il y a du voisinage autour, les personnes sont vieillissantes, sont craintives de l'étranger. Donc on le rappelle toujours et en général c'est assez bien reçu et c'est assez entendu. Donc on n'a pas trop de problèmes vis-à-vis de ça.
D'accord. Bon, Monsieur Kaufmann, vous voulez bien nous faire part de votre expérience personnelle?
Mon expérience, elle est un petit peu particulière du fait que j'avais quitté le territoire français, je suis partie au Maroc pendant une durée de 14 ans, et malheureusement, là-bas, je suis tombée gravement malade, un staphylocoque doré, qui a fait que je suis arrivée en urgence en France, sur Paris, en rapatriement sanitaire. Et je suis restée à l'hôpital pendant une durée de 6 mois, puisque j'avais perdu, en fait, je ne marchais plus pendant 1 an et demi, donc le temps de trouver le bon traitement adéquat, plus la rééducation pour réapprendre à marcher. Et suite à ça, en quittant l'hôpital, étant donné que j'avais pour X raisons pas la possibilité d'aller dans ma famille, ma sœur a pris contact avec le 115 et c'est là où mes problèmes entre guillemets ont commencé à se résoudre, du fait que le 115, étant donné qu'ils ont pris en considération que j'avais beaucoup de traitements, que je ne pouvais pas naviguer, puisque normalement le principe du 115 c'est de naviguer, pas de rester au même sur le même emplacement. Mais Monsieur Rachid, en l'occurrence, puisque j'avais affaire à lui du 115, a fait en sorte, effectivement, avec l'accord de l'OSEC, que je reste sur Feltin, dans le logement, le temps justement de pouvoir me retourner et trouver, et déjà d'une, mettre les moyens financiers en place. Ça veut dire on a commencé par le RSA au départ. Et l'association LOSEC m'a énormément aidé du fait que ils m'ont mis en contact avec l'assistante sociale, qu'ils ont accepté aussi que je sois prolongé chaque semaine, puisque normalement dans la logique ça devrait pas être forcément le cas. Et puis, ce qui a fait que je pense que l'OSEC en a fait un peu plus aussi pour moi, puisque ils m'ont même aidé à trouver un appartement qui était petit, provisoire, mais ce qui était très très bien pour moi au départ pour pouvoir me retourner. Et puis, suite à ça, ça a duré quand même donc en totalité 3 mois, facilement 3 mois. Et puis, pendant ces 3 mois-là, c'est vrai que l'association LOSEC ne m'a pas lâché, puisque même étant donné que ça met du temps pour tout ce qui est administratif, pour pouvoir percevoir aussi le RSA au départ, et donc, ne serait-ce que financièrement, c'est vrai qu'au niveau alimentation et tout, je ne peux dire que merci à LOSEC. Et au bout de 3 mois, j'ai eu la chance donc d'avoir mon appartement. Comme j'étais très très bien suivi avec l'assistante sociale, du coup ça a fait que on a pu pouvoir mettre, puisque ma situation à moi elle est un peu particulière du fait que c'est une maladie maintenant que je l'aurai toute la vie. Donc du coup on a fait un dossier MDPH, et puis ce qui a fait que par la suite je m'en suis sorti très très bien. Du fait que j'ai redéménagé, j'ai retrouvé un autre appartement à mon aise et que je pouvais absolument pas rester sans rien faire, déjà d'une, puisque je suis quelqu'un qui bouge quand même assez. Et donc du coup, la première idée qui m'est venue, c'est de rendre entre guillemets la monnaie de la pièce à l'association LOSEC. Et j'ai donc parlé avec Isabelle, qui m'a expliqué comment que ça se passait. Et là, effectivement, sans hésiter, j'ai pris la décision de travailler en tant que bénévole à l'association LOSEC, et pouvoir donner le maximum de ce que je peux.
Oui, en effet, un beau parcours.
Un très beau parcours.
Alors, vous avez pu toucher du doigt ce moment où on est vraiment complètement dans le risque de se trouver coupé de tout en étant dans une situation de précarité.
Ah oui, complètement. Là, je le dis avec simplicité, mais c'est vrai que quand j'étais encore à l'hôpital et que je savais que, par exemple, dans 15 jours, je devais justement quitter l'hôpital, je ne savais absolument pas où aller. Je n'avais aucune ressource pour vous dire, étant donné que j'étais partie pendant 14 ans à l'étranger, je n'avais même plus de pièce d'identité française. Donc ça veut dire que là, j'étais inconnue, entre guillemets, pour la France. Je n'avais plus de numéro de sécurité sociale, je n'avais plus de carte d'identité, je n'avais absolument plus rien. Je n'avais qu'une sœur ici qui pouvait justifier que j'étais son frère. Entre guillemets, donc voilà. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu le 115, je ne peux pas vous dire où je serais aujourd'hui, puisque là, c'est vraiment le 115 qui m'a aidé, malgré qu'il y avait, puisque bon, l'hôpital où j'étais, Kremlin-Bicêtre, c'est quand même très grand, il y a des services, il y a l'assistante sociale, mais ça n'a rien, absolument rien fait pour moi, en tout cas. Donc effectivement, oui. J'ai eu très peur de me retrouver, sans rien, sans savoir où aller. Je ne savais pas qu'il y avait une association comme l'association LOSEC à Felletin. Je ne savais même pas pour moi qu'il y avait le 115. Je ne connaissais absolument pas, parce que je n'ai jamais connu de ma vie. Donc à 45 ans, se retrouver comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, travaillant pour l'association, ben, c'est vrai que c'est peut-être, ma pensée à moi, peut-être un peu plus facile de comprendre certaines personnes qu'on reçoit, qu'on accueille, du fait que je suis passé aussi un petit peu par là. Comme la personne qu'on accueille à l'heure actuelle dans le logement ALT, c'est vrai que c'est, pour moi, je pense, peut-être plus facile de comprendre du fait que ce par là où il est passé, en tout cas moi j'y suis passé aussi, donc voilà.
Oui, ça vous permet une empathie particulière par rapport à ce qu'ils vivent. Et comment est-ce que ça vous permet de vous positionner du fait d'y être passé, parce que par rapport à un aidant qui n'a pas vécu cette épreuve, ça vous donne une dimension particulière.
Ça me donne une dimension particulière, mais en fait, par exemple, pour cette personne dont le logement a été, ça a été un peu plus facile pour moi de le diriger du fait que je suis passé par là. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui va être, ça a été peut-être un peu plus facile. Pour le mettre en contact avec une assistante sociale, ça a été plus facile puisque ça a été au même endroit où ça reste Felletin, donc l'assistante sociale c'est la même que je connais, donc c'était un petit peu plus facile, je pense, pour le mettre en contact. Après voilà, c'est surtout que ce qu'il vit à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai vécu moi de mon côté.
Ils le savent que vous avez vécu cette situation-ci.
Alors là, pour la personne du logement ALT, au départ, je voulais absolument pas que ça se sache, puisque voilà, c'est ma vie privée en soi.
Oui, sûr.
Après, j'ai voulu vraiment lui faire comprendre que quand on veut vraiment s'en sortir, surtout à son âge, on peut. Et donc, effectivement, je lui ai bien expliqué à cette personne-là, en l'occurrence, je lui ai expliqué que j'étais passé par là et que ce que je lui conseille, en l'occurrence, c'est parce que je l'ai eu fait. Oui, c'est la seule personne avec qui. C'est très rare quand je parle de ma situation, parce que ça reste la vie privée quand même.
Oui, bien sûr. Oui. Non, parce que là, on peut imaginer que ça puisse être un lien facilitateur.
Là, en l'occurrence, pour lui, oui. C'est vrai que ça a été plus facile quand je lui ai dit que j'étais passé par là aussi, que j'avais fonctionné comme ça. C'est vrai que c'est peut-être plus facile. Moi, je pense que ça a été plus facile pour lui après à comprendre pourquoi je pouvais l'aider de cette façon-là. Mais sans quoi, j'en parle pas.
Alors, du fait d'avoir cette largeur de vue, est-ce que ça vous permet de pouvoir faire des préconisations particulières au niveau social pour aider ces personnes ?
Ben, en fait, là, je parle parce que la seule personne...
Vous pouvez être un bon conseilleur.
Je peux être un bon conseilleur, oui, mais en ce qui concerne les personnes qui sont accueillies dans le logement ALT. Après, les personnes qu'on accueille dans le logement d'urgence, c'est un peu différent parce que ils ont pas forcément, ils sont pas dans l'optique de retravailler, ils sont pas dans l'optique de retravailler, de trouver un appartement. C'est donc pour moi, et puis en plus, comme c'est sur une durée de 3 jours, voire 6 jours, moi je suis pas forcément dans l'optique de lui dire ou le conseiller en tout cas les démarches qu'il pourrait avoir pour je suis plus à l'écoute de ce qu'ils vont nous raconter plutôt que les conseiller, puisque là c'est vraiment
l'urgence, c'est pas pareil, la réinsertion,
et
voilà c'est différent, oui.
Non, moi, ce qui m'interroge, c'est aussi les écueils. Vous avez abordé un petit peu cette question-là. Les écueils que vous avez, justement, pour la réinsertion, et aussi, par exemple, pour les personnes qui sont accueillies au bout de 6 jours, c'est ça, maximum. Qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Pour ce qui est du local d'urgence, notre mission, c'est que la personne puisse arriver dans les meilleures conditions possibles, donc avec un lit, de quoi manger, de quoi se doucher. Très souvent, c'est des gens qui sont dans la rue, donc effectivement, c'est un souffle, un repos sur 6 jours. Donc quand ils arrivent, on leur dit « vous êtes là pour vous reposer ». Et nous, on met en place tout ce qu'il faut pour que la personne n'ait pas de stress, ni avec le voisinage, ni à se poser la question comment ils vont manger. On pose la question s'ils ont des moyens ou pas, parce qu'il arrive aussi qu'en urgence, on ait des gens qui aient des moyens financiers. Donc dans ce cas-là, on n'intervient pas au niveau de leur repas. Mais par contre, ceux qui n'ont rien, on leur garantit sur leur séjour leur repas. Du chauffage et une douche. Donc ça, c'est vraiment dans l'urgence. C'est pour le logement d'urgence. Nous passons, sur la semaine, nous passons 2 fois voir la personne, plus s'il y a besoin. Donc c'est là où il faut être très observateur quand les gens arrivent, voir si ces gens-là vont avoir besoin qu'on vienne tous les jours, ou alors qu'on passe tous les 3 jours. Donc ça, c'est pour ce qui est du local d'urgence. Pour le logement ALT au-dessus, c'est un peu différent parce que la personne reste 6 mois. Donc sur ces 6 mois, lorsqu'elle arrive dans le logement, on signe un accord entre nous de savoir quel est l'objectif de la personne dans les 6 mois. Donc par exemple, la personne qu'on accueille aujourd'hui, c'est de retrouver un travail et de retrouver un logement. Donc durant les 6 mois, on va passer au moins 1 fois par mois. Déjà, ils ont une participation au loyer à verser, et pour voir avec eux s'ils ont besoin de quoi que ce soit, et on les met en contact avec l'assistante sociale. Donc après, tout le travail qui est fait au niveau des recherches et des montages de dossiers, c'est les services sociaux qui s'en chargent. Nous, on est là en tant qu'hébergeur. Et on est là aussi pour apporter un petit peu de vie et d'espoir auprès de ces gens qui souvent n'ont plus rien. Notre mission, elle s'arrête là, d'une part parce qu'on n'a pas de formation, et d'autre part parce qu'on est hébergeur au départ. Voilà, alors après, c'est vrai que la question se pose toujours, où commence notre mission et où elle s'arrête. Et c'est vrai que quand il s'agit d'être humain, eh ben, la mission, des fois, selon la personnalité de la personne, selon sa situation, selon la personne qui va intervenir aussi dans notre association, on est très, très différents les uns des autres. Tout l'intérêt et la richesse de notre association, Mais on ne regarde pas les choses tous de la même manière, on n'est pas sensibles tous de la même manière. Donc c'est dans nos discussions comment trouver le bon mot, la bonne attitude par rapport à la personne qu'on accueille. Et ça peut changer d'une personne à une autre.
Ça, c'est important.
C'est toute la difficulté en fait, de notre mission, c'est d'être adapté au mieux. Ouais. Et je rappelle de nouveau, sans formation et en tant que bénévole, apporter un encadrement le plus juste et le plus bienveillant possible. Alors la bienveillance, nous on sait tous faire, donc ça, mais des fois dans la bienveillance on peut aussi faire des erreurs. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on discute tout le temps, et on est au téléphone très souvent, par mail très souvent, parce qu'on est tous occupés les uns et les autres dans nos vies aussi. Mais la communication est pour nous le premier truc pour pouvoir accompagner au mieux les gens et être au plus juste et sans prendre de risques, ni pour eux ni pour nous.
Moi, je suis très sensible à toutes les précautions que vous prenez, à toute l'attention que vous avez, à cette conscience d'être dans une position délicate et de vous doté de tout un système d'échange qui vous permet d'être à la meilleure place et d'utiliser les meilleurs mots. Vraiment, c'est
pour nous,
ça s'entend ça. Clairement.
Oui, je crois que c'est. Mais je pense qu'on est tous conscients que c'est vraiment ça le noyau. C'est une association qui a 10 ans, une association qui fait de l'accueil de personnes en grande précarité. Et je trouve que c'est assez exceptionnel de voir une association de ce type-là fonctionnant qu'avec des bénévoles et qui aujourd'hui existe encore, a repris de nouveau un souffle parce qu'on est 5 à être rentrés. Le plus jeune de nos adhérents a 18 ans, le plus âgé a 75 ans. On a vraiment un groupe très, très... C'est vrai, on a une diversité dans nos identités et dans notre âge, et c'est ce qui fait vraiment la force de cette association. Et je pense qu'elle a été réfléchie au départ par un groupe de personnes qui s'est attaché à vraiment disséquer tout ce qu'il y avait à disséquer pour être dans la mission la plus juste et la plus adéquat par rapport à ce qu'on fait. Et c'est vrai.
Est-ce qu'on pourra avoir accès à l'objet de l'association, à l'objet de votre association?
Alors, les statuts, est-ce que je vais les avoir peut-être, mais...
Bon. Nous vous remercions de témoigner et d'accepter de participer à ce groupe.
Et bien, merci à vous de nous avoir sollicité.
Voilà, je vais arrêter le...
Voilà, parce qu'après, comme ça...